Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour ce cinquième jour de notre neuvaine de prière pour les malades. Quand la souffrance interroge, Dieu répond par l'espérance. Nous l'avons vu et nous le savons, la souffrance traverse l'humanité depuis ses origines. Elle est l'une des réalités les plus universellement partagées, présente en tout temps, en tout lieu et dans toute existence humaine. Depuis qu'il y a des hommes sur terre et dans le temps, la souffrance accompagne leur histoire. Elle marque les corps, éprouve les cœurs, façonne les cultures et interroge les consciences. Aucune époque, aucune civilisation, aucune personne n'y échappe. Cette universalité, même, en fait un lieu privilégié où se joue la compréhension de l'homme et où se laisse pressentir en creux l'appel à une lumière plus haute. Or, cette lumière ne vient pas de l'homme lui-même. Nous la recevons de la révélation divine. C'est Dieu qui éclaire l'homme en se révélant. Il nous offre une parole capable d'interpréter ce que nous ne comprenons pas par nous-mêmes. Saint Jean-Paul II, dans Salvici Doloris, dira que l'Écriture est un grand livre sur la souffrance. Dès lors, une question s'impose. Que nous dit l'Écriture sainte de la souffrance? Comment la parole de Dieu éclaire-t-elle ce mystère qui traverse toute existence humaine? D'emblée, il est essentiel de le reconnaître. La révélation divine ne prétend pas nous livrer une explication totale et définitive de la souffrance. Elle fait bien davantage. Elle l'illumine de l'intérieur par la présence mystérieuse et l'action bienveillante de Dieu jusque dans le cœur même de l'épreuve. Entrons donc aujourd'hui et demain avec respect et confiance dans ce que l'Écriture sainte nous enseigne sur ce grand mystère de la souffrance humaine. La première grande lumière que nous offre la révélation divine se déploie dans les récits fondateurs de la Genèse, ce livre des principes, ainsi que le suggèrent les tout premiers mots de l'Écriture, Bereshit, Bara, Elohim. C'est là que se dévoile la vérité profonde de nos origines avec l'acte créateur de Dieu, l'apparition de la création visible et invisible, et tout particulièrement la formation de la nature humaine, reconnue comme Tov Mehod, très bonne dans le dessein de Dieu. Mais ce même récit révèle aussi l'origine de la souffrance, par la rupture introduite par le péché, qui altère profondément la relation de l'homme avec son Créateur, avec la création elle-même, et est divisé en lui-même. Cette fracture ouvre la porte à la souffrance sous ses formes les plus fondamentales, avec la douleur liée au don de la vie, la pénibilité du travail, la vulnérabilité du corps et finalement la mort biologique. Toutes ces conséquences liées à cette rupture manifestent cette désarticulation fondamentale de l'existence humaine. La souffrance apparaît donc intimement liée à la condition humaine marquée par le péché. Cette souffrance est souvent interprétée de manière négative, lue spontanément comme une punition infligée à l'homme. Mais si la révélation nous disait autre chose, et si au lieu d'y voir seulement une peine, nous découvrions que la souffrance peut devenir, dans la lumière de la révélation divine, bien sûr, comme un remède ou un chemin par lequel l'homme est conduit à retrouver sa dignité perdue et la vérité de sa relation avec son Créateur et avec autrui. En effet, ce que met en lumière la Genèse, c'est une souffrance d'arrachement, née du désir d'autonomie. L'homme se trouve arraché à Dieu, à l'harmonie originelle et à une existence reçue comme don. Cette dimension intérieure de la souffrance est essentielle. Elle est la marque d'une liberté blessée qui a voulu s'affirmer contre son Créateur. Dès lors, la souffrance liée à la condition humaine peut être comprise comme la conséquence d'une liberté blessée, mais appelée à être restaurée. Elle n'est pas seulement le signe d'une faute méta-historique, elle devient le lieu d'un combat intérieur où l'homme est invité à revenir à la source de la vie. Dans cette perspective, on peut dire que la souffrance possède une dimension de remède. Si l'homme ne souffrait pas, prendrait-il conscience de la rupture originelle? Percevrait-il qu'il a perdu la plénitude de sa liberté? Éprouverait-il le besoin d'un chemin de guérison pour la retrouver? La prise de conscience, l'expression de la blessure et sa mise en parole constituent déjà un processus de guérison, comme le montre d'ailleurs l'expérience psychologique contemporaine. La révélation divine, quant à elle, dévoile l'ampleur des conséquences de la chute originelle et éclaire ce travail intérieur par lequel l'homme est conduit vers la restauration de son être. Or, l'histoire humaine, et tout particulièrement les récits bibliques, montrent très bien que cette blessure s'étend et s'intensifie. La souffrance se propage par la violence, la jalousie et le meurtre. Cela nous montre la profondeur du désordre introduit dans le cœur de l'homme. Cette dynamique montre que la souffrance se déploie dans l'histoire comme une force qui façonne les relations humaines et révèle la profondeur de ce désordre. C'est précisément ce que manifeste le premier grand récit de violence fraternelle. À travers le récit d'Abel et de Caïn, il apparaît que la souffrance n'est pas seulement endurée, elle est également provoquée et infligée. Elle se traduit alors comme par une errance, une perte du lieu et une impossibilité de demeurer en paix avec le monde. Pourtant, même dans ce contexte marqué par la rupture et la souffrance, Dieu ne renonce pas à ouvrir un avenir. La souffrance n'est jamais le dernier mot. Caïn, qui a tué son frère, erre, et Dieu met un signe sur Caïn afin que le premier venu ne le frappât point. Dans toute une partie de l'Ancien Testament, la souffrance est ainsi comprise dans une logique de responsabilité morale. Le malheur est souvent interprété comme une conséquence du péché, tandis que la fidélité de Dieu est associée à la bénédiction. Mais cette vision, bien qu'importante, demeure incomplète. Elle prépare une révélation beaucoup plus profonde. Cette révélation atteint un sommet dans le livre de Job. Avec lui, la théologie de la rétribution immédiate est radicalement mise en question. Job est juste. Et pourtant, il souffre. Il souffre même d'une manière qui défie toute explication. Le scandale est là. Comment la justice de Dieu peut-elle coexister avec la souffrance de l'innocent? Le problème central reste donc de concilier la bonté de Dieu et la souffrance de l'homme. Il oblige à admettre qu'il n'existe pas de rétribution automatique du bien et du mal sur cette terre. Le juste souffre comme l'impie, et parfois davantage. La Bible est à la fois parole de Dieu, mais surtout cri de l'homme, qu'il suffise de méditer les psaumes. Elle exprime toutes les souffrances, guerre, déportation, trahison, faim, adultère, faiblesse, péché, et j'en passe, et les met à la disposition de l'humanité comme un trésor, où puiser pour guérir. Le livre de Job reste le grand texte sur la souffrance injuste. Mais l'histoire de Job ne propose pas une solution théorique. Il introduit dans un mystère. Parcourons ce récit. Il faut d'abord noter l'étonnant rôle de l'ange déchu, le Satan, qui a pour charge d'éprouver le cœur de l'homme, qui met en doute la gratuité de l'amour de l'homme, et là en particulier de Job. L'histoire de Job suit ensuite des étapes essentielles. D'abord, dans la cour céleste, comme nous venons de le dire, Dieu autorise Satan à éprouver Job sans le tuer. Il est curieux de constater le rôle de Satan qui met en doute la gratuité de l'amour de Job. Pourquoi ? Puis vient l'acceptation héroïque de Job. Yahvé avait donné, Yahvé a repris, que le nom de Yahvé soit béni. Et il n'adresse aucun reproche à Dieu, malgré les conseils de sa femme, qui l'invite à maudire Dieu, puis à disparaître de la terre des vivants. Job reste inébranlable. Il accepte le bonheur comme le malheur. Puis, dans le temps des discours, pour Job, ce sera, après la phase d'acceptation, celle des récriminations, d'une révolte qui l'amène à maudire le jour de sa naissance. Sa souffrance présente lui fait voir l'absurdité de la vie, et il valorise la mort. Toutefois, il ne se détourne pas de Dieu, mais il le provoque, veut l'amener à descendre au tribunal de sa raison humaine, de son bon sens. Ses amis observe 7 jours de silence avant de parler. Ces derniers sont enfermés dans une logique trop étroite de rétribution. Et ils cherchent à expliquer sa souffrance par un péché caché. Eliou introduit toutefois une note nouvelle. La souffrance comme médecine pour la conversion. Et il emphasise comme une béatitude. Oui, heureux l'homme que Dieu corrige, car celui qui blesse, c'est aussi celui qui panse la plaie et guérit. Chacun exprime à sa manière la théologie vétérotestamentaire, essentiellement celle de la rétribution. En fait, il n'y a pas vraiment de dialogue entre Job, c'est-à-dire l'éprouvé, et les témoins de son infortune, les amis de Job. Alors Job s'insurge, car il n'a pas péché. Il n'a pas péché. Au bout de la souffrance, il y a donc une espérance, l'espérance de l'innocent. Et cette espérance ouvre un horizon de restauration. Mais il s'agit d'écouter, c'est-à-dire de se convertir. Car l'homme, du fait de sa liberté, est à l'origine de sa misère et de sa souffrance. C'est l'homme qui engendre la peine, dira-t-il. Enfin, quand Dieu se décide à rompre le silence, c'est que Job ne trouve plus rien de nouveau à dire. Il en est finalement venu à douter de lui-même. Mais suis-je parfait ? Je ne le sais même plus moi-même. Malgré la souffrance, chers frères et sœurs, on peut rester orgueilleux. L'un des derniers biens dont il faudra se dépouiller, c'est cette fameuse bonne conscience. Surtout quand on a vécu comme un juste, dans la rectitude morale, l'observance de la loi. Après plus de 2000 ans de christianisme, notre sensibilité pourrait en être choquée et le visage du Père apparaître menaçant, voire repoussant. Jean Gallo, un jésuite, pose le problème crûment. Je le cite. Dans cette attribution, on perçoit la sensibilité de Job, mise à vif par l'épreuve. On doit également y discerner l'affirmation d'une vérité essentielle. Il ne s'agit pas d'atténuer la responsabilité de Dieu dans la souffrance humaine, mais de la reconnaître et de découvrir ainsi le véritable problème que pose cette souffrance. Dieu intervient donc quand Job cesse de se regarder, de se justifier, de vouloir traîner son Créateur au tribunal. Il faut sans doute beaucoup de souffrance pour enfin que puisse se poser profondément la question de Dieu pour le faire surgir en nos vies. Le frère Marie-Joseph Le Guillou, dominicain, synthétisera ainsi. Dieu lui a fait découvrir, donc à Job, cette racine de violence, de révolte, de refus qui habite le juste et le saisit tout entier, qui le tord intérieurement. Il lui a montré que la soumission qu'il demande est un arrachement de tout l'être, l'a plongé dans une angoisse de mort. l'ampleur du drame qui se joue est immense. Au cœur même de la souffrance qu'il suscite en l'homme, Dieu l'appelle à le rencontrer plus totalement. Au moment même où il lutte contre les raisonnements des théologiens de son temps, et le père Luguiot dira « les théologiens du néant », comme il les rappelle, à l'intérieur de sa vie et de sa misère, Job rencontre Dieu avec plus de vérité. C'est la réalité même de Dieu, c'est à la réalité même de Dieu qu'il est confronté. Et il découvre que Dieu, dans sa justice, transcende toutes les catégories créées. La fin de cette citation. Dans l'Ancien Testament, la restauration signifie le recouvrement de ses biens terrestres, et on le voit à la fin de Job, voire leur multiplication par rapport à l'état originel. C'est ainsi que se terminera l'histoire de Job. La justice et la bonté de Dieu restent sauves. La souffrance n'a été qu'un moyen pour faire émerger une vérité, une relation à Dieu, de personne à personne, purifiée des fausses images et des théologies peu ou prou, contingentes ou imaginaires. Ce chemin est décisif. La souffrance devient lieu de relation. Elle dépouille l'homme de ses certitudes, y compris de sa propre justice. Lorsque Dieu intervient, ce n'est pas pour expliquer la souffrance, mais pour se révéler. Job découvre alors que Dieu dépasse infiniment toutes les catégories humaines. La rencontre avec Dieu devient plus importante que la compréhension de la souffrance et ultimement du mal. Ainsi, la souffrance n'apparaît plus comme une simple punition. Elle peut devenir un lieu de purification, un chemin vers une relation plus vraie avec Dieu. Elle dévoile aussi que la foi ne peut être fondée sur une logique d'intérêt, mais sur une gratuité. Cette ouverture trouve un accomplissement prophétique dans les chants du serviteur souffrant en Isaïe, et tout particulièrement dans le quatrième poème. Dans son interprétation chrétienne, ce poème, on trouve une description anticipée de l'attitude du Christ Jésus au cœur de sa passion. Je cite le passage. Maltraité, il s'humiliait, il n'ouvrait pas la bouche, comme l'agneau qui se laisse mener à l'abattoir, comme devant les tondeurs une brebis muette. Il n'ouvrait pas la bouche, par contrainte et jugement, il a été saisi. Parmi ses contemporains, qui s'est inquiété qu'il ait été retranché de la terre des vivants, qu'il ait été frappé pour le crime de son peuple. On lui a donné un sépulcre avec les impies, et sa tombe est avec le riche, bien qu'il n'ait pas commis de violence et qu'il n'y ait pas eu de tromperie dans sa bouche. Vous trouverez ce passage en Isaïe chapitre 53, versets 7 à 9. Le serviteur souffrant introduit une perspective nouvelle. La souffrance peut être assumée pour les autres. Je répète, la souffrance peut être assumée pour les autres. Elle devient substitutive, porteuse de salut. Ici, la souffrance de l'innocent n'est plus juste, n'est plus seulement un scandale, elle est investie d'un sens salvifique. Le serviteur porte les fautes de son peuple. Et par ses blessures, les autres sont guéris. La souffrance n'est pas recherchée pour elle-même, mais elle devient un chemin de vie. Elle est substitutive, elle est rédemptrice. Je cite à nouveau Isaïe. Il a été transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous rend la paix est sur lui. La souffrance est intégrée dans un dessein d'amour. Ce déplacement est radical. La souffrance n'est plus seulement liée au passé, par le péché, elle est orientée vers l'avenir, le salut. Elle devient une voie, mais cette révélation reste difficile à accueillir et acceptable, tout particulièrement pour le peuple juif qui attendait un Messie triomphant. Elle contredit complètement l'attente d'un salut sans épreuve. Il n'est pas sûr qu'elle le soit maintenant encore. Encore, comme l'expliquera le père jésuite Jean Gallo. Je le cite. Le peuple, donc hébreu, attendait un Messie triomphant et non un Messie souffrant, comme en témoignent les difficultés que rencontrera Jésus pour faire admettre l'aspect douloureux de sa mission. Et je glose, les disciples ont eu vraiment du mal à intégrer cette réalité. D'autre part, la solution donnée dans les poèmes du serviteur au problème de la souffrance de l'innocent n'a pu pénétrer en profondeur dans la mentalité populaire. Le principe de la souffrance-châtiment a continué à s'imposer dans l'interprétation des épreuves de la vie humaine. De ce long parcours, à travers l'Ancien Testament que nous venons de faire, très brièvement quand même, se dégagent quelques repères essentiels. La souffrance y paraît tour à tour comme un châtiment, un moyen de purification, à l'image du creuset, une pédagogie divine, appelant un appel pressant à la conversion, et parfois déjà comme une voie de rachat. Cependant, la révélation rejette clairement l'idée d'une rétribution automatique et directe du péché personnel. Dieu lui-même condamne cette logique simpliste. Le scandale de la souffrance de l'innocent demeure entier, et tout particulièrement le sens de la souffrance du petit enfant, pour lui-même pris individuellement. Demain, nous nous tournerons vers le Nouveau Testament. C'est avec le Christ Jésus, le Messie, que nous entrerons au cœur même de ce mystère. La souffrance sera assumée, transfigurée et offerte en vue du salut du monde. Nous contemplerons l'attitude de Jésus face à la souffrance des hommes, puis sa propre passion. Nous découvrirons comment en lui la souffrance injuste devient le lieu suprême de l'amour rédempteur. Et nous comprendrons alors, à la lumière de la croix et de la résurrection, que la souffrance, même lorsqu'elle reste un scandale et un mystère, n'est jamais abandonnée à elle-même. Elle peut devenir, par grâce, participation à l'œuvre du salut. Ainsi, l'Écriture ne nous enferme pas dans l'énigme de la souffrance et plus profondément dans le mal, mais elle ouvre un chemin d'espérance, celui d'une souffrance qui, unie au Christ, cesse d'être destructrice pour devenir source de vie. Une souffrance qui, transfigurée par l'amour, ne mène plus à la mort, mais à la plénitude du bonheur. Amen.